Vous écoutez
RMC.
Vendredi 19 août.
L'info sur RMC.
Très bon réveil à tous, tout de suite votre journal de 6h avec Alexandra Sirgan. Bonjour Alexandra.
Bonjour Sébastien, bonjour à toutes et à tous. Une nouvelle nuit d'orage en Corse, beaucoup moins violente que la précédente. Hier, les intempéries ont fait 5 morts sur l'île. Face à la polémique autour de la responsabilité de Météo France, Gérald Darmanin réagit. La situation était difficilement prévisible selon le ministre de l'Intérieur. Et puis pourtant, un favori, l'OGC Nice pris au piège face au Maccabi Tel Aviv. Défaite 1-0 en match barrage aller de la Ligue Europa Conférence.
Les orages se calment sur la Corse ce matin.
Après la violence inédite de la tempête hier, l'île de Beauté s'attendait encore à des gros orages cette nuit. Émeric Dantreuil, vous vous êtes l'envoyé spécial de RMC à Ajaccio. Comment s'est passée la nuit ?
Eh bien, écoutez, ici, la nuit a été relativement calme par rapport aux intempéries d'hier. Il y a bien eu effectivement de nombreux orages, mais les épisodes de vent et de pluie qui étaient redoutés sont restés bien moins forts que la veille. Pour exemple, les plus fortes rafales ont été mesurées cette nuit à 97 km/h à Cagnano, dans le nord de l'île. Hier matin, en comparaison, le vent avait dépassé les 200 km/h par endroit sur la côte ouest de l'île. Les services de pompiers me le confirmaient d'ailleurs tout à l'heure. Aucune intervention liée à la météo n'a eu lieu pendant la nuit, que ce soit en Haute-Corse ou en Corse du Sud. Par prévention, les campeurs ont quand même été évacués hier après-midi de tous les campings de Corse du Sud et logés dans des bâtiments en dur. En Haute-Corse, ce sont également 5400 campeurs qui ont été évacués. Mais la nuit, finalement, donc, a été calme. La vigilance orange inondation et orage est cependant toujours active jusqu'à 10h ce matin. Et Météo France appelle encore à la prudence.
Merci Émeric Dantreuil, envoyé spécial à Ajaccio. Pour RMC, le bilan provisoire des intempéries est de 5 morts et 20 blessés, dont 4 grièvement selon le ministre de l'Intérieur. Ces intempéries qui ont commencé hier et ont donné lieu à des images sans précédent en Corse. Campings dévastés, arbres arrachés, routes endommagées, du jamais vu selon Julien, résident à Ajaccio.
La mer était noire, était sombre, mais rien ne présageait ça. Et là, ça arrivait d'un coup, des trombes d'eau, le vent, tout s'envolait. Nous, sur la terrasse, clairement, il n'y avait plus rien. Ça, à 8h du matin, 8h30 du matin, au réveil, on ne s'attendait pas à ça. On savait qu'il y avait des orages prévus, mais pas comme ça. Il y a des tempêtes, il y a de l'orage. En montagne, on en a, on connaît. Mais là, comme ça, c'était... Franchement, quand on voit ce nuage arriver, c'était la fin du monde. Clairement, un truc comme ça, c'est du jamais vu.
Et depuis hier, plusieurs représentants locaux pointent du doigt la responsabilité de Météo France. Jusqu'à la dernière minute, l'île n'était placée qu'en vigilance jaune. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sur place en Corse, a réagi.
Du ministère de l'Intérieur et notamment la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises entreprend un certain nombre de travaux d'évacuation lorsque nous avons des alertes qui nous permettent de faire ces évacuations. Manifestement, il était très improbable que le phénomène météorologique touche cette partie de la Corse dans des conditions de telle violence et qu'il était très difficilement prévisible. Météo France avait évoqué des vents qui n'atteignaient pas les pointes de plus de 200 km à l'heure dans certains endroits qui ont fait naître les drames que nous connaissons.
Voilà, beaucoup de questions, il y a de quoi s'interroger encore ce matin sur cette alerte émise très très tard hier. On s'interrogera tout à l'heure à 6h40 avec un ingénieur de Météo France, Jérôme L'Artisan, sur les moyens mis en œuvre par Météo France, et on vous expliquera comment se font les prévisions et pourquoi c'est si compliqué de prévoir un tel orage.
RMC 6h04, le procès de Benjamin Mendy se poursuit en Angleterre. Hier, une deuxième plaignante a témoigné au tribunal de Chester, en présentiel cette fois-ci. Le footballeur français inculpé de 10 chefs d'accusation, dont 8 viols. Nicolas Pelletier, ce récit a encore une fois été glaçant pour l'audience.
Figé dans le box des accusés, Benjamin Mendy a écouté pendant plus de 2 heures les déclarations de cette deuxième plaignante. Cachée derrière un rideau dans la salle du tribunal de Chester pour éviter le regard du joueur, cette jeune femme décrit une scène qui remonte à octobre 2020. La plaignante accuse Benjamin Mendy de 3 viols lors d'une même soirée à son domicile de Presbury. Coincée dans la chambre qui dispose d'une ouverture à empreintes digitales, la jeune femme avoue qu'elle a répété à plusieurs reprises qu'elle ne voulait pas coucher avec l'ancien international français. « J'ai eu le sentiment de ne pas avoir le choix », explique la victime présumée devant l'avocate de Benjamin Mendy. Le procès se poursuit. Encore 5 plaignantes du dossier Mendy doivent comparaître devant le tribunal. Dans quelques jours, ça sera à la défense de Benjamin Mendy de jouer les premiers rôles.
Et Nicolas Pelletier, journaliste RMC Sport, qui suit ce procès au jour le jour, sera avec nous tout à l'heure, juste après le journal de 7h, pour nous raconter comment il vit ce procès, nous raconter ce qui se passe devant ce tribunal.
trois hommes condamnés hier à Créteil à 3 et 4 ans de prison ferme pour avoir participé à une attaque orchestrée du commissariat de Vitry-sur-Seine. Le poste de police avait été visé par des tirs de mortier de cocktail Molotov dans la nuit du 31 juillet au 1er août. Bientôt, des nouveaux trains sur les rails en France. Une commande de 15 TGV nouvelle génération a été faite par la SNCF à Alstom, annonce du constructeur ferroviaire français hier soir. La commande s'ajoute à celle des 100 rames déjà passées en 2018. Objectif, transporter 20% de passagers en plus. Alors à quoi va ressembler ce train nouvelle génération, Marion Tessen?
On l'appelle le TGV du futur. C'est la quatrième génération de trains à grande vitesse développés en 40 ans et il répond aux enjeux écologiques et économiques de notre époque. D'abord parce qu'il consommera 20% d'énergie en moins que les trains actuels grâce à un meilleur aérodynamisme. Et ensuite, la SNCF devrait faire 30% d'économies sur la maintenance grâce à des capteurs capables de détecter quand changer les pièces. Enfin, cette nouvelle génération de trains pourra accueillir 20% de voyageurs supplémentaires dans des rames qui seront plus récentes et plus modernes. L'objectif de la SNCF est de doubler la part du rail dans le transport voyageurs d'ici 2030.
Ces derniers jours, plusieurs nominations d'anciens ministres ont fait grincer des dents dans l'opposition. L'ancien Premier ministre Jean Castex a par exemple été nommé président du conseil d'administration de l'Agence de financement des infrastructures de transport en France. L'ancienne ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, a elle pris la tête mercredi de la commission de régulation de l'énergie. Des postes sur proposition d'Emmanuel Macron ou de sa première ministre. De quoi raviver les critiques sur l'entre-soi en Macronie. Paul Barcelone du service politique de RMC.
Jean Castex, Emmanuel Wargon ou encore l'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui a hérité d'un poste à la Cour des comptes, tous ont reçu un coup de pouce de la part d'Emmanuel Macron, qui a le pouvoir de signer des décrets de nomination. L'opposition regrette des recasages, mais le député NUPES, Arthur Delaporte, refuse de mettre tout le monde dans le même sac.
Pour ce qui est d'Emmanuel Wargon, ce qui est plus gênant, c'était plutôt qu'elle avait dit qu'elle souhaitait continuer la politique au soir de sa défaite aux élections législatives et que 4 semaines plus tard, à peine, elle se présente comme une haute fonctionnaire. On ne pouvait pas considérer qu'elle serait totalement indépendante. Après, il faut pas non plus verser dans le populisme absolu. Quand on a une carrière de haut fonctionnaire, comme l'a été Jean Castex, il n'a pas choisi d'aller faire du conseil pour le Qatar, comme le faisait Nicolas Sarkozy. C'est finalement le cas qui est le moins choquant.
D'ailleurs, ces recasages ne sont pas toujours une évidence. Depuis 2013, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut les bloquer. Et puis certains très proches d'Emmanuel Macron peuvent aussi rester sans mandat ou fonction. C'est le cas en ce moment de Christophe Castaner ou de Richard Ferrand.
On connaît désormais la date de versement de la prime exceptionnelle de rentrée, une aide de 100 euros pour aider les foyers les plus modestes, avec 50 euros en plus par enfant à charge. Ça sera donc le 15 septembre. 10,8 millions de foyers vont en bénéficier.
RMC, il est 6h08, on passe à l'actualité du football. Et Nice, prise au piège face au Maccabi Tel Aviv.
Ils étaient favoris, ils rentrent finalement bredouille. L'OGC Nice est incliné 1-0 hier en Israël face au Maccabi Tel Aviv lors du match barrage aller de Ligue Europa Conférence. Les Israéliens auront donc un but d'avance au début du match retour. Mais le capitaine des Aiglons, Dante, reste confiant.
Tant que tu marques pas, tu n'es jamais à l'abri. Et si tu marques, tu commences à mener le score, ça va te mettre dans une autre situation qui peut nous favoriser pour gagner des matchs. Pas perdre la confiance, parce qu'il y a quand même des bonnes choses, mais il va falloir qu'on ose tous nos performances dans l'intensité, dans l'agressivité, dans la gnaque, dans la vraiment envie de bien jouer au foot, mais aussi à la fin d'avoir du résultat.
Bonne nouvelle en revanche pour les frères Lebrun au championnat d'Europe à Munich. Ils décrochent le bronze au tennis de table 3-7-1 face aux Autrichiens. Et puis on y a vu une orque, puis un beluga. C'est désormais un phoque qui a été identifié dans la Seine, précisément près de Laval de Pose-Amfreville dans l'Eure. Pas de panique en revanche, selon Sea Shepherd France, il s'agirait d'un phoque qui a l'habitude de venir se nourrir à cet endroit à cette période de l'année.
Ah bon, ça va, on est rassuré. Alexandra Sirgan pour le journal à 6h10. Sur RMC. Bonjour Anaïs Castagna.
Et bonjour Sébastien Crêpe.
Ça va ce matin?
Très bien.
C'est vendredi, le week-end arrive, c'est même
les vacances
qui arrivent pour nous. Vous n'avez pas démissionné, rassurez-moi.
Non, pas encore. Non, je suis bien dans mon travail. Je crois que c'est ça aussi la clé. Les conditions de travail, c'est ce qui ressort énormément ce matin au 32-16 et sur Direct Studio. Évidemment, quand les conditions sont mauvaises, les employés finissent par craquer et aller chercher ailleurs.
Les conditions au sens large, hein, le salaire, les horaires. derrière le confort, voilà, les relations avec les managers. On parle de ce chiffre ce matin qui est spectaculaire. Un demi-million de Français, 500 000 Français ont démissionné en 3 mois, entre janvier et mars de cette année. Et si on regarde sur les 6 mois, si on inclut les 3 mois précédents, ça fait plus d'un million. Voilà, donc ça, un nombre de démissions record, nombre de ruptures conventionnelles aussi record. Les Français sont-ils tous en train de changer de vie, changer d'employeur, parfois changer de métier, parfois déménager? On parle de tout ça ce matin et on attend évidemment vos témoignages. Tout à l'heure, vous pourrez dialoguer avec une coach qui justement accompagne des salariés dans ce qu'on appelle un bilan de compétences. Vous faites le point un peu sur vous-même, sur votre carrière.
Pour savoir ce que vous pouvez envisager.
Exactement. 8h10, elle sera avec nous pour dialoguer avec vous. 32-16, l'application RMC. Soyez tous les bienvenus.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Justement, à suivre le débat du jour sur RMC, cette grande démission. Le taux de démission a atteint un niveau record en France depuis 2008. Au premier trimestre de cette année, 523 000 salariés ont quitté volontairement leur emploi. Perte de sens, nouvelles envies, nouvelles opportunités aussi. Et vous, est-ce que vous avez franchi le pas ou pas? Vous nous dites sur RMC, sur l'appli RMC. Et au 32-16, on vous attend.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. RMC, Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
6h12 sur RMC. Est-ce que la France est donc à son tour en train de connaître la grande démission, ce terme qui est né aux États-Unis, est en train de s'appliquer aussi en France, avec donc ce chiffre, un demi-million de Français qui ont quitté leur emploi entre janvier et mars. C'est un record depuis 2008, au moment de la crise financière. Alors pourquoi les salariés veulent-ils trouver du sens à leur métier? D'autres profitent aussi du dynamisme du marché du travail pour mieux renégocier leur salaire et partir chez un autre employeur. Et vous, est-ce que vous y avez déjà pensé? Est-ce que vous l'envisagez? Est-ce que vous aussi, vous voulez changer de vie? 32-16, on vous attend. C'est notre débat du jour et c'est le reportage de la rédaction ce matin. Reportage signé Siam Spencer.
Une école de commerce renommée a un premier emploi dans le marketing, un CDI, puis le Covid a bouleversé la vie de Justine.
Ça nous a fait tous prendre conscience qu'en fait, il y avait des choses beaucoup plus importantes. Finalement, c'est dans une boîte en marketing, on s'en fout, quoi.
Alors, début 2022, Justine démissionne.
Je me suis dit, j'arrête la vie parisienne, j'arrête de bosser en marketing, je prends un peu de temps pour moi. Et là, je me lance du coup en food truck.
Objectif, vivre de sa passion et en accord avec ses valeurs. Son food truck de vin et tapas sera éco-responsable.
On va faire bosser les petits producteurs, on va aller dans des caves locales pour chercher le vin. Enfin, en fait, on va tout faire local.
Démission aussi pour Rudy, agent de sécurité. Il ne supportait plus le management violent sur son lieu de travail.
Vous aimeriez, vous, travailler pour un patron? Tous les jours, il vous dit, ouais, vous êtes nul, vous n'êtes pas bon, c'est pas bon, c'est jamais bien, c'est jamais ci, c'est jamais ça.
C'est à la faveur du chômage partiel qu'il prend conscience de ses dysfonctionnements.
Je me suis dit, mais attends, mais en fin de compte, on est toujours au travail. La vie, c'est ça, je me lève à 3h du mat, je rentre, il est 15h. Je suis fatigué de ma journée. J'ai dit, c'est bon, je passe l'éponge, je me tire, je m'en vais, j'ai rien perdu.
Et désormais, Rudy a des critères dans sa recherche d'un nouvel emploi. Il veut avoir une vie à côté de son travail. Ses nouvelles attentes, Benoît Serre, vice-président délégué de l'Association nationale des DRH, les observe de plus en plus.
Aujourd'hui, la dimension du management, la dimension de la liberté d'organisation, l'engagement pour la planète et toutes ces choses-là sont devenus des critères très importants qui viennent d'ailleurs juste après le critère de la rémunération.
Les entreprises doivent donc changer pour s'adapter et pouvoir recruter. Et
on est entre les deux avec un marché très actif qui fait que les gens partent sans vraiment d'inquiétude sur leur capacité à retrouver. Et de l'autre, des entreprises qui ne se sont pas encore vraiment adaptées aux nouvelles exigences. Vous ne changez pas une entreprise comme ça en claquant des doigts.
Revoir les salaires à la hausse, les contrats d'embauche et globalement les conditions de travail avec plus d'autonomie. Les pistes d'amélioration sont nombreuses pour conserver ou attirer de nouveaux salariés.
Voilà pour ce reportage qui pose le débat. On vous attend au 32-16 sur l'application RMC. Anglais Direct Studio, beaucoup de témoignages ce matin. Kevin est avec nous au 32-16. Bonjour Kevin.
Bonjour l'équipe.
Bonjour.
Bienvenue sur RMC, Kevin. Vous nous appelez du Tarn-et-Garonne, c'est ça?
Tout à fait, pas loin de Montauban.
Bon, qu'est-ce que vous faites dans la vie pour être levé aussitôt?
Alors, c'est un peu compliqué. Voilà, j'étais chauffeur poids lourd pendant 5 ans. J'ai démissionné au mois de février, j'ai craqué complètement.
Ah oui.
C'était plus tenable. J'avais un projet de créer une entreprise. Le problème, c'est que suite à cette démission, Pôle emploi m'a refusé le chômage. Donc, il a fallu que j'aille trouver un CDD de 3 mois. C'est tombé en plein été. C'est comme ça. Je termine le 9 septembre. Et puis après, je vais pouvoir mettre tout ça en place petit à petit.
Et oui, parce que quand on démissionne, on n'a pas le droit au chômage.
Et non, et puis bon, il y a eu des nouvelles règles qui sont tombées sous Macron avec il faut remettre tout le monde au travail. Donc ça aussi, c'est un peu le...
Mais voilà, qu'est-ce qui a fait que, quand vous dites que vous vous sentiez mal au travail, qu'est-ce qui a fait qu'il fallait absolument partir, même si vous n'aviez rien derrière?
Alors, comment dire? En fait, bon, j'étais pas sans rien, si vous voulez, parce que tout le monde ne peut pas faire ça en claquant des doigts. J'ai eu la chance d'avoir un petit peu d'argent de côté pour pouvoir me le permettre. Je l'ai réfléchi pendant longtemps. Ça faisait plus d'un an que la situation ne me convenait plus.
Qu'est-ce qui vous convenait plus?
Au bout d'un moment, en fait, c'est votre santé qui en joue. Vous êtes stressé, vous êtes pas bien, vous avez plus goût à rien, vous êtes désagréable dans votre vie de couple. Enfin, tout ça, en fait, c'est des signes qui vous disent stop. À un moment donné, il faut reprendre le taureau par les cornes et dire stop.
La vie, c'est la relation avec votre employeur, c'est avec votre manager qui n'allait pas?
Non, j'avais une très très bonne relation avec mon patron. Alors ça, c'est un peu contre-sens. Je m'entendais très très bien avec lui, mais le travail à lui-même ne me convenait plus. Après le Covid, on a perdu la plupart des clients qu'on avait, et du coup, on s'est mis beaucoup à faire de la livraison dans tout ce qui est bâtiment. Donc, porter des vitres qui faisaient 150 kilos, tout ça, nous, on n'était pas agréés à faire ça. Et mon dos était cassé, mon corps était cassé. C'était pas le métier de chauffeur poids lourd, j'avais pas signé pour ça, quoi. Donc,
Et qu'est-ce que vous avez envie de faire aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, j'ai ma petite idée de création dans ce qui est la restauration. C'est de travailler de chez moi et de livrer les bureaux entre midi et deux. Les personnes qui sont derrière leur ordinateur ou voilà, sur leur lieu de travail, qui ont qu'une heure pour manger, les livrer directement sur leur lieu de travail à proximité de chez moi, puisque j'ai la possibilité de le faire.
Donc vous voulez travailler à votre compte, en fait, c'est ça change tout aussi.
Mais c'est pas facile, et c'est pas facile de se lancer à son compte, parce que ça nécessite vraiment d'y réfléchir, et puis surtout après ça demande énormément d'investissement, ça va prendre énormément de temps sur votre vie perso. Vous en avez conscience?
C'est pas grave, en fait, si vous voulez, j'ai eu des idées à côté qui me permettent d'avoir des ressources à côté financièrement parlant. Donc en fait, si vous voulez, c'est même pas pour générer spécialement de l'argent, c'est pour faire quelque chose qui me plaît, premièrement. Parce qu'aujourd'hui, dans la vie, qu'est-ce qui est le plus important? C'est le bonheur. Moi, j'ai une petite fille de 7 ans, j'ai une compagne avec qui on est très heureux ensemble. Notre plaisir, c'est aller à la pêche, se balader, respirer. Vous pouvez même pas vous imaginer les 3 mois où j'ai arrêté de travailler après la démission de mon précédent emploi, de déjeuner sur une terrasse avec vue sur la campagne et entendre le bruit des oiseaux. Mais tout ça, c'est des choses qu'on a oubliées. On a oublié l'essence de la vie, en fait.
Vous aviez besoin de temps pour vous, Kevin. Bah, écoutez, on vous souhaite bon courage dans ce projet, ce nouveau projet, changement de vie pour vous, Kevin, dans le Tarn-et-Garonne. Merci pour votre appel au 32-16. Caroline est également avec nous. Bonjour, Caroline.
Bonjour.
Vous nous appelez d'où, Caroline?
Près de Mulhouse, dans le Haut-Rhin.
Dans le Haut-Rhin, d'accord, près de Mulhouse. Vous aussi, vous avez changé de vie, c'est ça?
Oui, totalement. Alors moi, j'étais conductrice de bus en milieu urbain pendant 12 ans. Et je suis devenue famille d'accueil, donc assistante familiale. Donc je garde des enfants placés à mon domicile par un juge.
Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui a fait que du jour au lendemain, vous vous êtes dit... Enfin, c'est peut-être pas du jour au lendemain, mais qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit, là, j'ai envie de faire autre chose, ça n'est plus possible?
Alors, c'est dû au confinement. J'ai vraiment réalisé qu'avec le confinement, j'avais besoin d'être plus proche de mes enfants, que mes enfants avaient beaucoup de difficultés à rester seuls le soir ou pendant les périodes de repas, pendant les périodes de devoirs. J'ai constaté vraiment une difficulté par rapport à ça et le fait qu'ils se sentaient vraiment souvent très embêtés de ne pas avoir assez de temps avec moi.
Et est-ce que vous êtes plus heureuse aujourd'hui?
Totalement, totalement. Vraiment, énormément, beaucoup plus, malgré que c'est un métier difficile et assez compliqué. Mais c'est un très joli métier et mes enfants...
Et vous n'y avez pas perdu en termes de...
Un métier qui a du sens, on y revient encore.
Qui a du sens. Vous n'y avez pas perdu en termes de revenus?
Pas du tout, j'y ai même gagné.
Vous avez même gagné. Ben voilà, vous avez gagné sur tous les plans, Caroline. Merci beaucoup pour votre témoignage. 32-16, on en parle toute la matinée. Comme je vous disais, donc une coach qui s'occupe des bilans de compétences sera avec vous pour dialoguer à 8h10, parce qu'elle accompagne un certain nombre de salariés. Elle va nous raconter voilà ce qui fait qu'on change de vie. Et si vous êtes chef d'entreprise, si vous êtes manager, si vous êtes DRH, appelez-nous aussi. Est-ce que vous vivez, vous aussi, ce phénomène dans votre entreprise, ce départ massif de salariés, 500 000 de démissions entre janvier et mars 2022. 32-16, l'application RMC, il est 6h21.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et à suivre, ce sont nos pépites RMC, nos petites histoires insolites du matin avec Anaïs Castagna et avec Quentin Dubois. Bonjour Quentin.
Bonjour Sébastien.
Une histoire ce matin.
Je vous parle d'un cambrioleur qui a eu une idée un peu folle pour échapper à la police pendant un cambriolage. Donc.
À tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin. RMC, Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Il est 6h24 sur RMC.
Les pépites RMC.
Les pépites RMC, tous les matins, quelques histoires insolites dénichées par Anaïs Castagna et par Quentin Dubois. Quentin, on commence par ce jeune homme, ça s'est passé en France, ce jeune homme qui a tenté de se cacher pour échapper à la police lors d'un cambriolage. Alors, il s'est caché avec une technique bien à lui.
Oui, il y a quelques jours, je vous parlais d'un jeune Anglais qui s'était caché dans un ours en plus géant pour échapper à la police. Eh bien, il y a un nouveau champion dans la catégorie cachette ratée, mais osé, et il est français. Il s'est caché dans un lit, tout simplement.
Dans un lit, cachette ratée, tu dis comment ça, la police a fini par le retrouver, elle l'a cherché partout.
Oui, et je crois que le but, c'était pas vraiment de ne pas être retrouvé. Ça s'est passé lundi dernier à Toulouse, suite au signalement d'un témoin qui suspecte un cambriolage. La police se rend dans une zone pavillonnaire. Une fois arrivé sur place, il voit qu'une fenêtre est brisée et décide donc d'intervenir. Une fois dans la maison, ils attrapent deux jeunes hommes en train de fouiller dans des sacs à main. Ils font le tour du propriétaire pour voir s'il n'y a pas d'autres personnes. Arrivé dans la chambre, surprise, l'un des jeunes a tenté le tout pour le tout. Il s'est caché dans un lit, mais pas simplement sous la couette. Il a tenté de faire croire aux policiers qu'il habitait ici. Il s'est donc couché, il a fermé les yeux pour faire semblant de dormir. Alors, je sais pas si les policiers ont hésité longtemps, mais le jeune homme a finalement été interpellé. L'entourloupe n'a pas marché. Avec ses deux complices, les trois cambrioleurs âgés de 15 à 22 ans ont été ramenés au commissariat et placés en garde à vue pour tentative de cambriolage.
Bien tenté. Ben non, je suis chez moi.
C'est ça, c'est exactement ça.
Anaïs, autre sujet, d'après une étude britannique, la libido des couples serait boostée pendant les vacances.
Eh oui, il n'y a pas que les célibataires qui s'éclatent plus en ce moment. Les vacances bénéficient aussi aux amoureux qui ont plus de temps pour eux. Résultat, leur rapport sexuel serait multiplié par deux. C'est ce que dit une enquête britannique dans laquelle on apprend aussi que les couples profitent des vacances d'été pour tenter de nouvelles choses, de nouvelles positions, beaux lieux aussi.
Alors, il y a quand même une catégorie pour qui c'est un peu plus compliqué.
Ouais. Les couples avec enfants. Tu sais, ces petites bêtes qui te collent tout le temps. Eh bien, c'est pire pendant les vacances. Hugo témoigne cette semaine dans Le Parisien. Il est parti avec sa femme et sa fille de 2 ans en Suède. Elle dormait dans leur chambre, donc pas d'intimité, à part quand la salle de bain était assez grande pour installer un lit, dit-il. Et puis, les journées sont longues. Quand on est parents, on passe son temps à essayer de fatiguer nos enfants. Et à la fin, eh bien, c'est nous qui sommes rincés. Donc, pour les câlins, c'est vrai que c'est plus compliqué. La bonne nouvelle, c'est que c'est bientôt la rentrée. Si tout se passe bien, dans quelques semaines, les enfants seront dans leur lit à 20h, 21h max. Mais, avec le retour du boulot, les factures à payer, la maison à ranger, la libido s'est terminée.
Autre chose en tête.
On sent le vécu, non?
Un petit peu.
Quentin, je reviens vers toi. Au Portugal, un homme a été condamné à une amende salée pour ne jamais avoir aidé sa femme à faire le ménage.
Et oui, attention, écoutez bien, c'est ce qui est arrivé à un Portugais qui, après 30 ans de vie commune et un divorce, a dû payer 60 782 euros à son ex-femme. En 30 ans de vie commune, il ne l'a jamais aidé dans les tâches ménagères. C'est le tribunal suprême de justice portugais, l'équivalent de notre cour de cassation, qui l'a condamné à rembourser cette dette ménagère.
On peut être condamné pour ça. Une dette ménagère, c'est quoi ?
Une dette ménagère, en fait, c'est le tribunal, en gros, a estimé que tout le temps à ne rien faire lui aurait permis, en un sens, de s'enrichir plus. Il a eu plus de temps libre, contrairement à sa femme, qui, elle, a sacrifié son temps pour nettoyer la maison.
D'accord. Et donc, ils ont calculé cette somme. Plus de 60 000 euros, ça, c'est quand même conséquent.
Ouais, et ça aurait pu être pire. L'ex-mari s'en sort plutôt bien. Sa femme ayant demandé à la base 240 000 euros. Cette grosse amende a été calculée d'un côté en prenant le salaire de base minimum au Portugal et de l'autre sur le calcul calcul du temps passé à faire le ménage pendant ces 30 ans de vie commune. Et selon le tribunal, c'est tout simplement une exigence d'égalité. Il faut une répartition des tâches aussi égalitaire que possible. Et si l'un des deux ne fait rien, ça doit être d'un commun accord. Ce qui, de toute évidence, n'était pas le cas dans ce couple.
Ouais, donc ils ont calculé comme si elle avait dû être rémunérée. Cette histoire, elle s'est passée donc au Portugal. Ça pourrait arriver en France ?
Alors pour le moment,
on
n'a pas encore eu de cas en France qui pourrait faire jurisprudence, mais ces condamnations pourraient donner à certains des idées. Il y a eu deux condamnations similaires dans le monde. Une en 2019 en Argentine, 153 000 euros d'indemnité. Et l'an dernier en Chine, 6 300 euros. Et dans les deux cas, ce sont des hommes qui ont été condamnés.
Ah, évidemment.
Je sens que ça va intéresser.
Bah, l'inverse,
parce que nous, on ne pense pas aller en justice.
Oui, bien sûr.
Ça va intéresser un certain nombre de nos auditrices, j'en doute pas. Merci à tous les deux. À 6h30 sur RMC, votre journal, c'est avec Océane Théard. Bonjour Océane.
Bonjour Sébastien, bonjour à toutes et à tous. Des orages d'une violence extrême en Corse hier ont fait au moins 5 morts et des vingtaines de blessés. Des milliers de campeurs ont dû être évacués hier soir, notre reportage à Ajaccio dans ce journal. Et après une journée d'apocalypse, Gérald Darmanin a annoncé hier que l'état de catastrophe naturelle serait décrété dès mercredi prochain. Du cyclisme avec le top départ du Tour d'Espagne aujourd'hui, avec un espoir de revanche pour les coureurs français.
Après une journée apocalyptique hier avec des vents à plus de 200 km/h, de nouveaux orages moins violents ont touché la Corse cette nuit.
Hier soir, par précaution, les campings de Corse du Sud ont dû être évacués pour la nuit. Les campeurs ont donc abandonné leurs tentes et ont été recueillis par des locaux. Un reportage de l'envoyé spécial de RMC à Ajaccio, Émeric Dantreuil.
Face à la mer, sur leur grande terrasse, René et Marie partagent le repas avec leurs invités. Thomas, sa femme et leurs trois enfants sont soulagés de retrouver un toit après leur expérience au camping.
On était en train de replier les tentes. Tout d'un coup, c'était comme en pleine nuit et des rafales de vent comme rarement on a pu voir. Ouais. Les tentes sont pas en bon état, les affaires sont mouillées, mais pas de blessés chez nous. Et puis on est accueillis là, de voir qu'on peut être accueillis par des locaux ici, c'est quelque chose qui nous touche.
C'est sur les réseaux sociaux que la famille est rentrée en contact avec Marie et René.
Je suis content de les recevoir, sans problème. Moi, je ne vais pas les mettre dehors hein, quand même. Il y a tout ce qu'il faut pour eux.
Dans l'appartement, au lieu d'être 3, on est donc maintenant 8.
C'est rond, hein.
Un peu d'organisation s'impose.
Je pense qu'on va mettre un lit comme ça, j'ai des lits gonflables, ils ont des sacs de couchage, donc ça devrait aller.
Et même si tout est allé très vite, Marie ne regrette pas d'avoir ouvert sa porte.
Ça aurait pu être moi à leur place. Je suis corse de cœur, on va dire, et j'ai toujours été bien accueillie en Corse. Quand il y a un souci, il y a l'entraide. C'est comme ça. Donc il y a le respect.
L'ensemble de la Corse est toujours en vigilance orange jusqu'à 10h ce vendredi matin.
Des intempéries qui ont fait, on le rappelle, à 5 morts et au moins 20 blessés. Des précisions avec Benoît Ballet.
Les corps de deux personnes sans vie ont été retrouvés en mer. Un pêcheur de 62 ans, bien connu du port d'Ajaccio, localisé 80 km plus au nord dans le golfe de Girolata. Et tout au nord de l'île, une kayakiste a également perdu la vie. C'est son mari qui avait donné l'alerte hier tôt dans la matinée. Lui aussi en kayak, il avait réussi à se mettre à l'abri. Dans les terres, le vent qui a soufflé à plus de 220 km/h est responsable du décès de trois personnes. La chute d'un arbre a causé la mort d'un homme de 46 ans dans un camping de Calvi en Haute-Corse. Même scénario à Sagone, au nord d'Ajaccio, un arbre est tombé sur la tente d'une jeune Autrichienne de 13 ans en vacances avec sa famille dans un autre camping de l'île de Beauté. Enfin, quelques kilomètres de là, une femme de 72 ans est décédée d'une crise cardiaque après la chute du toit de sa paillote emportée par le vent sur son véhicule.
Et après ces intempéries, Gérald Darmanin a annoncé hier que l'état de catastrophe naturelle serait décrété dès mercredi prochain. Charles-Henri Bianconi, le maire de Pianottoli-Caldarello en Corse du Sud, se félicite de cette rapidité.
Comme chaque fois qu'il faut décréter un état de catastrophe naturelle, il faut se dépêcher. D'ici mercredi, ça nous laissera le temps de faire un bilan. Il y a des dégâts sur les routes, il y a des dégâts sur les réseaux. Donc effectivement, c'est important. Les gens, pour leurs assurances, évidemment aussi.
La Corse sous le choc et beaucoup d'interrogations ce matin sur l'alerte très tardive qui a été lancée par Météo France hier alors que l'orage avait déjà commencé. Y a-t-il eu défaillance des prévisions météo ? On va en débattre avec Jérôme L'Artisan, il est délégué syndical à Météo France. Il sera avec nous juste après le journal. Il va nous expliquer très concrètement comment ça s'est passé hier matin et comment sont conçues les prévisions.
De 3 à 4 ans de prison ferme pour les trois hommes accusés d'avoir orchestré l'attaque du commissariat de Vitry-sur-Seine Seine dans le Val-de-Marne. Le bâtiment avait été visé par des tirs de mortier et des jets de cocktails Molotov. La prime exceptionnelle de rentrée sera versée à partir du 15 septembre. Cette aide de 100 euros plus 50 euros par enfant à charge sera distribuée à plus de 10 millions de Français. Elle vise notamment les bénéficiaires des minima sociaux ainsi que les étudiants boursiers.
Au Royaume-Uni, à présent, à 6h34 sur RMC, c'est le plus gros mouvement de grève depuis des années qui a débuté.
Oui, avec des débrayages massifs dans les transports, la poste et les ports. Notamment, les Britanniques protestent contre une inflation à 10% et qui pourrait dépasser 13% en octobre. Les transports publics sont donc fortement perturbés. Et pourtant, les usagers se montrent compréhensifs, Amandine Réau.
Hier, seul un train sur cinq circulait au Royaume-Uni. L'appel à la grève des syndicats a été suivi par des dizaines de milliers d'employés du rail. Un mouvement contre la vie chère que ces usagères britanniques ne peuvent que soutenir.
Les enfants, les crédits, le coût de l'essence pour aller au travail. Tout ça, c'est effrayant.
La pauvreté est beaucoup plus importante aujourd'hui que dans les années 70. Parce qu'à l'époque, tout le monde avait du travail. Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas.
Le mouvement de grève doit se poursuivre jusqu'à mardi. Pas de sortie de crise en vue. Le dialogue entre les syndicats et le patronat est au point mort depuis fin juin. Mike Lynch, secrétaire général du syndicat RMT.
Les Britanniques en ont eu marre des bas salaires. Cela fait des décennies que des millions de personnes n'ont pas de salaire décent. Les travailleurs du secteur public de la santé, de l'éducation et des transports, tous ces secteurs sont touchés par des réductions de salaires suite à l'inflation.
Guerre en Ukraine, Covid-19, Brexit, les causes de l'inflation sont multiples et le mouvement pourrait s'étendre à d'autres secteurs dans les prochaines semaines.
Nous ne voulons pas d'un nouveau Tchernobyl. Le président turc Recep Tayyip Erdogan partage sa préoccupation quant à la sécurité de la centrale de Zaporijjia. Il rencontrait hier le président ukrainien et le secrétaire général de l'ONU à Lviv, Antonio Guterres, qui a rappelé pour sa part qu'endommager la centrale serait un suicide. Il appelle à ne surtout pas utiliser ce site pour des opérations militaires. En football, l'OGC Nice s'est incliné hier en Israël face au Maccabi Tel Aviv lors du barrage aller de la Ligue Europa Conférence. La faute à un but encaissé à un quart d'heure de la fin de la rencontre. Les Niçois qui ne sont pas parvenus à concrétiser leurs occasions, comme l'a concédé en conférence de presse l'entraîneur Lucien Favre.
On a fait une bonne première mi-temps, on s'est créé des occasions, beaucoup même, et malheureusement on n'a pas scoré, il a manqué peu de choses, deux fois les poteaux, etc. Et puis en deuxième mi-temps, on était moins bon. Non, on n'est pas revenu trop confiant. Ils nous ont mis quand même quelques fois en danger en première mi-temps aussi, même qu'on a eu beaucoup d'occasions. Mais c'est vrai qu'on a baissé pied en deuxième mi-temps aussi.
Et du basket ensuite, et le sans faute continue pour l'équipe de France masculine. Victoire 90-71 pour les Bleus face à la Belgique hier. Leur quatrième victoire en autant de matchs disputés.
Le quintet, c'est sur l'hippodrome de Pornichet-Labeaume ce soir à 20h15.
Et le pronostic de la Dream Team des courses RMC, son favori, c'est le numéro 7, Eke Juelo. Son outsider, c'est le numéro 6, Faustine Ney, le 7 et le 6. La course du quintet, c'est à suivre en direct sur RMC Découverte.
Océane Théard pour le journal. Océane qu'on retrouve tout à l'heure à 7h30. Il est 6h38 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Vos rendez-vous à suivre dans la matinale sur RMC tout à l'heure. Après le journal de 7h, nous serons au cœur du procès du footballeur français Benjamin Mendy. Hier, journée glaçante avec le témoignage de l'une des plaignantes qui l'accuse de plusieurs viols. C'est le journaliste RMC Sport, Nicolas Pelletier, qui vient nous raconter ce procès qu'il suit depuis la semaine dernière. Le défenseur français risque la prison à perpétuité. Et puis à 7h40, la Corse endeuillée, 5 morts, une vingtaine de blessés. Bilan toujours provisoire ce matin après le violents orages qui se sont abattus sur l'île hier matin. Et j'appellerai à 7h40 le président du conseil exécutif de Corse, Gilles Simeoni.
Puis dans quelques minutes, on va voir ce qui s'est passé hier avec la vigilance orange en Corse. Est-ce que la vigilance de Météo France a été déclenchée trop tard? Jérôme Lartisan, ingénieur à Météo France, délégué FO, va répondre à cette question. Il faut revoir nos systèmes de prévision, nous dira-t-il. C'est le parti pris du jour.
C'est Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Il est 6h42 sur RMC. Très bon réveil à tous.
Le parti pris.
Le parti pris du jour, c'est le vôtre, Jérôme Lartisan. Bonjour.
Oui, bonjour.
Bienvenue sur RMC. Vous êtes ingénieur à Météo France, délégué force ouvrière. Votre parti pris ce matin, c'est de dire que Météo France manque de moyens finalement pour prédire au mieux les événements climatiques comme celui que nous avons connu hier. Jérôme Lartisan, restez avec nous. Loïc Rivière est aussi avec nous en plateau, journaliste météo à RMC. Jérôme Lartisan, revenons précisément sur ce qui s'est passé hier, cette alerte particulièrement tardive en Corse, puisque l'orage avait déjà commencé. Est-ce que, selon vous, cette violente tempête aurait pu, aurait dû être identifiée plus tôt ?
Alors, avant de prendre la parole sur ce sujet, je voudrais dire un mot, c'est que tous les agents de Météo France sont touchés par cet événement tragique.
Bien sûr.
Les collègues sont attachés à la mission de sécurité des personnes et des biens. Cette mission, c'est notre principale mission. Et c'est toujours une grande tristesse lorsqu'il y a une tragédie de ce type dans notre pays. Et bien sûr, nous avons une pensée pour toutes les familles qui vivent ce drame. Alors, par rapport à ce qui s'est passé en Corse hier, je n'ai pas pour l'instant les éléments techniques. Il y aura forcément, c'est certain, un retour d'expérience qui déterminera s'il y a eu un dysfonctionnement. Et s'il y a eu dysfonctionnement, il y aura des améliorations qui seront mises en place.
Racontez-nous précisément comment ça se passe. Comment on conçoit cette prévision dans la nuit et hier matin?
Alors, on utilise pour faire des prévisions des modèles de prévision. Les modèles de prévision, si vous voulez, ce sont des supercalculateurs qui ont qui font une simulation de l'atmosphère. On y entre des données et des formules de mathématiques, de physique simulent l'atmosphère et les ordinateurs, le supercalculateur fait des prévisions du temps pour les heures à venir et les jours à venir. Et ces modèles.
Et c'est ça qui n'a pas fonctionné.
Ne sont pas toujours parfaits. Et pour les situations orageuses, c'est particulièrement difficile. Un orage est particulièrement difficile à prévoir. Les modèles ne sont pas toujours parfaits. Alors, ils ne sont pas parfaits pourquoi ? Parce que les observations qui vous voulez initialise la modélisation ne sont pas parfaites et les formules de mathématiques et de physique ne sont pas non plus parfaites. Donc il y a toujours des petites écarts entre ce qui est prévu et ce qui est observé.
Je vais tourner juste vers Loïc Rivière pour un petit mot. Loïc, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a plusieurs modèles, que les prévisionnistes doivent les comparer et puis finalement faire des choix.
Effectivement, c'est tout l'intérêt d'avoir de nombreux prévisionnistes pour pouvoir statuer en fonction des situations. Là, il y avait effectivement de nombreux modèles qui voyaient ces orages passer au large, en fait, entre Corse et continent. Il n'y avait qu'un modèle, en réalité, qui voyait des rafales vraiment virulentes. C'était celui de Météo France, justement, mais il était isolé et habituellement, il a tendance à accentuer ce paramètre rafale de vent. Alors, du coup, il a été laissé de côté, en tout cas pendant quelques heures, puisqu'on surveillait quand même l'évolution de la situation. Hier matin, chez Météo France, c'était surtout une question d'alerte ensuite, aux alentours de 8 heures.
Voilà, aux alentours de 8 heures, en fait, l'orage, il est détecté quand il est là, au final. Il n'est pas prévu à l'avance.
En fait, on le voit sur les radars, mais on le voit beaucoup trop tard. On manque de balises en mer, certainement.
Il n'y a pas de système plus efficace qui permette de détecter, justement, et de ne pas se tromper.
Alors, l'orage, c'est le cauchemar du météorologue, puisque ce sont des événements qui, en général, sont assez localisés et qu'on a du mal à anticiper. En fait, on peut vous dire qu'il y a une situation orageuse, c'était le cas hier, avec une vigilance jaune, en tout cas jusqu'à 8h30. On peut vous dire qu'il y a un risque orageux, difficile de dire longtemps à l'avance exactement où ça va tomber et en quelle quantité, avec quel type de rafale précisément.
Et vous avez pointé un point, c'est-à-dire qu'en mer, on manque de balises, donc on ne voit pas précisément où se trouve l'orage. Je reviens vers vous, Jérôme Lartisan. Vous dites finalement, aujourd'hui, on manque de moyens. Vous n'êtes pas assez nombreux pour examiner ces situations météo ?
C'est ce que disait tout à l'heure votre collègue. Avec des modèles de prévision de plus en plus fins et de plus en plus nombreux, il faut garder une expertise de prévisionniste, d'ingénieur et de technicien. Et là, malheureusement, à Météo France, on fait le contraire. Au niveau des effectifs, on perd à peu près 3% par an. Imaginez-vous qu'en 2012, il y avait 3380 agents, je compte prévisionnistes, informaticiens, tous les agents de Météo France. Et en 2022, on est passé à 2500 agents. On a perdu 24% en 10 ans.
Et ça fait une différence dans votre travail au quotidien ?
Oui, ça fait une différence dans le travail au quotidien parce que autrefois, dans les années 2000, au début des années 2000, il y avait des centres dans les départements. Ces centres départementaux sont supprimés. et il y a moins de présence humaine locale. La présence humaine est devenue territoriale et régionale. Hein. Elle est basée sur le fonctionnement de 7 centres météo interrégionaux et quelques centres pour la marine et pour la montagne.
Ça veut dire que ce sont des il y a moins de retour de prévisionnistes, de connaisseurs de leur département.
Entre les départements, il y a la prévision. C'est plus difficile pour un prévisionniste de faire une prévision sur 3, 4, 5 départements, ouais, voire 18, que pour un département.
Donc, Loïc Rivière, un mot peut-être des alertes, parce qu'il y avait bien une alerte sur la Corse. Elle était jaune. Il y a des alertes jaunes, il y a des alertes oranges. En général, quand vous faites la météo, on parle des alertes oranges, on parle quasiment jamais finalement des alertes jaunes. Est-ce que on manque d'y être attentif?
Alors, on essaye. Quelles sont importantes ? On essaye d'en parler un peu plus souvent, notamment en situation orageuse, difficile à anticiper. Ces vigilances jaunes, on en a quasiment tous les jours en réalité. Hein. Donc difficile d'en parler tous les jours, si ce n'est en banalisant la vigilance. Et ça, on ne le veut pas. Ce qu'on veut, c'est justement attirer l'attention avec des vigilances oranges. Le tout, c'est de les déclencher au bon moment.
Il y a ce débat aussi, Jérôme l'artisan, ce dilemme chez les prévisionnistes. À quel moment on déclenche l'alerte? Et peut-être ne pas la déclencher trop souvent au risque de la banaliser?
Tout à fait. Alors à chaque fois qu'on fait une vigilance, on a des indicateurs et il y a une étude qui est faite pour savoir si cette vigilance est justifiée ou pas. Donc forcément, il ne faut pas faire de non-détection et il ne faut pas faire non plus trop d'alerte vigilance. Donc il faut le prévisionniste, il doit aussi un petit peu jouer avec ses paramètres. Il ne faut pas. Alors le plus important, c'est de ne pas faire de non-détection, mais il ne faut pas non plus banaliser les vigilances oranges. Ouais. Par contre, je voulais revenir sur la vigilance jaune. On entend parfois dire certains élus, la vigilance jaune, c'est pour des petites pluies. Non, quand on est en vigilance jaune, ça veut dire attention, assurez-vous de regarder la situation météo avant de sortir.
Il faut rester attentif, y compris aux alertes jaunes. Je voulais juste donner ce chiffre, pardon, Jérôme l'artisan, parce que vous parliez des fausses alertes. Voilà, les fausses alertes, entre guillemets, une alerte qui ne se confirme pas ensuite, 14% seulement en 2021. Et la non-détection, c'est-à-dire un phénomène météo qui n'aurait pas été détecté, seulement 1,7%. Donc finalement, voilà, ça montre aussi que c'est extrêmement rare que Météo France ne détecte pas, et notamment des phénomènes comme ceux-là. Merci beaucoup, Jérôme l'artisan, d'avoir été avec nous, ingénieur à Météo France, délégué Force Ouvrière. Je remercie également Loïc Rivière, qu'on retrouve dans quelques minutes.
À tout de suite.
Pour la météo du jour, il est 7h10.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
On continue comme chaque matin de prendre des nouvelles de tous ceux qu'on a aidés et accompagnés tout au long de l'année dans Apolline Matin. RMC s'engage pour vous avec Johanna Chabaz. Bonjour Johanna.
Bonjour, je vous reparle des riverains de l'usine Fleury-Michou en Vendée. Un mur anti-bruit devait soulager les habitants, mais selon eux, le niveau sonore est toujours aussi élevé.
Et puis Loïc Rivière, vous êtes resté avec nous. Vous allez nous expliquer ce matin pourquoi Google va parfois refuser de répondre à nos questions.
Oui, pour lutter contre les fausses informations. Il est parfois effectivement délicat de donner des réponses simples à des questions compliquées. Vous allez le voir.
À tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Vos réactions, vos témoignages ce matin sur Direct Studio. Ce matin, vous êtes nombreux à vouloir parler de ces Français qui démissionnent, ces chiffres de la démission qui sont au plus haut. Mais que se passe-t-il ? Stéphanie témoigne ce matin sur RMC. Elle est enseignante en primaire depuis 21 ans. J'envisage de démissionner. Le métier n'est plus ce qu'il était, nous écrit-elle. Tâches administratives croissantes, classes surchargées, des parents qui coopèrent de moins en moins, le salaire qui n'évolue pas. Et tout cela lui donne réellement envie de changer. Arnaud témoigne aussi sur Direct Studio après avoir passé 15 ans comme cadre en management dans l'industrie. Le Covid m'a permis de me remettre en question. Je suis donc en cours de démission pour totalement me reconvertir. J'ai travaillé plus de 15 ans en 5-8 pour maintenant reprendre une formation de menuisier ébéniste. Passion que j'ai depuis longtemps. Allez-y, vous continuez à témoigner sur Direct Studio et au 32-16 évidemment.
RMC, Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Bienvenue si vous nous rejoignez, il est 6h54.
Ça vous concerne.
Avec Loïc Rivière, les questions du quotidien chaque matin. Ce matin, Google, outil du quotidien, 7 milliards de recherches. Et on lui pose à Google parfois des questions assez saugrenues et parfois même très étranges. Et pourquoi sa maison mère, aujourd'hui, ne veut plus y répondre?
Alors si vous deviez répondre à 80 000 questions chaque seconde, ce serait certainement compliqué, vous seriez débordés. Nous sommes nombreux à poser nos questions directement dans la barre de recherche. Parmi les plus posés, l'an dernier, comment faire son nœud de cravate, comment embrasser, tomber enceinte, perdre du poids ou alors gagner de l'argent. Là, c'est très classique. Quand vous posez vos questions à la volée, Google affiche souvent un extrait d'un site d'information ou alors de Wikipédia sous forme de résumé, tout en haut des résultats. Ça permet de gagner du temps, mais ce n'est pas forcément pertinent.
Ouais, bah c'est plutôt le rôle d'un moteur de recherche de répondre à des questions, non ? Qu'est-ce qui pose problème ?
Alors, je vous laisse réfléchir à ces questions posées tous les jours. Est-ce que je suis enceinte ? 90 000 recherches mensuelles. Comment rentrer chez moi ? 50 000 recherches tous les mois. Les cochons transpirent-ils ? Les pingouins ont-ils des genoux ? Ou alors le fameux « Est-ce que les vers de terre ont des yeux ?» Question compliquée, vous voyez. Vous pouvez aussi demander « Quelle est la meilleure radio de l'été ?»
C'est évidemment RMC. Merci
joli.
Anaïs et Sébastien pour ce bel été.
Voilà. Dans les questions Google plus étranges, comment entrer en contact avec les Illuminati ? Quels sont les présidents membres du Ku Klux Klan ? Ou alors le monde est-il plat ? Mais Google n'a pas la réponse à chaque fois, ou alors ce n'est pas la bonne. En 2017, notamment à la question « Barack Obama planifie-t-il un coup d'État ?», l'extrait proposé expliquait tout en haut des résultats comment le président Obama pourrait planifier un coup d'État communiste à la fin de son mandat. Une fausse information, copier-coller sur un site complotiste et forcément non vérifié.
Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est les défauts des qualités de Google qui va chercher effectivement un peu partout, y compris sans vérifier les informations. Méfiez-vous de ce que vous lisez sur Internet.
Du coup, on améliore l'algorithme.
6h55.
RMC s'engage pour vous.
Bonjour Johanna Chabas.
Bonjour.
Ce matin, dernier retour sur l'un de vos dossiers, le dossier des riverains de l'usine Fleury-Michon à Pouzauges, c'est en Vendée, je vais y arriver. Ils n'en peuvent plus, les riverains, du bruit que fait l'entreprise.
Oui, parce que les camions de Fleury-Michon chargent et déchargent leurs marchandises à une centaine de mètres des habitations. Le bruit était tellement fort la nuit que les habitants ne pouvaient plus dormir. Après notre premier reportage en octobre, la préfecture a interdit aux camions de passer la nuit et l'usine est obligée de trouver des solutions pour baisser le niveau sonore. L'entreprise a donc décidé de construire un mur anti-bruit. Mais quand on retourne voir les habitants pendant les travaux en juin, ils sont dubitatifs car le mur ne passe pas devant toutes les maisons.
C'est que le mur, il va pas jusqu'au bout, quoi. Donc c'est ça qui nous inquiète. Il manque au moins 30 mètres, ou plus que ça, même 100 mètres, facile.
Ouais, mec, il arrive bien avant notre maison. J'ai envie d'y croire, mais j'ai du mal à y croire que ce mur va empêcher qu'on entende tout le bruit. Il aurait été vraiment devant ma maison jusqu'à... Oui, là, j'aurais dit oui, bien sûr, devant ma maison, un mur. C'est un mur anti-bruit, c'est fait pour ça. Il y a déjà eu des tests pour ça, donc voilà. Là, c'est qu'il s'arrête juste avant ma maison. Après, on nous a promis qu'on n'entendrait plus rien, donc à voir. Moi, je demande que ça, hein.
Et donc à l'époque, on avait posé la question à la directrice logistique du site. Elle nous avait promis que grâce au mur, il n'y aurait plus de bruit.
Et donc évidemment, vous avez pris des nouvelles. Aujourd'hui, le mur est fini. Est-ce qu'il est efficace ?
Eh bien, selon les riverains, ça n'a absolument rien changé. Pour Sylvain, le bruit est toujours aussi fort.
Ça ne va pas, rien ne s'est arrangé quoi, en fait, hein, parce qu'ils ont beau construire le mur, rien n'a changé. Bien au contraire, ça a amplifié, parce que ça fait vraiment caisse de résonance en fait. Le son est beaucoup plus grave, beaucoup plus fort et beaucoup plus grave. On leur avait dit que ça servait à rien. Et ils n'ont pas voulu nous écouter, ils ont voulu en faire qu'à leur tête. Ils ont dépensé je ne sais pas combien de milliers d'euros pour en arriver là quoi, en fait. Tout ça pour rien.
Donc Fleury-Michon nous explique avoir réalisé des nouvelles mesures acoustiques et être conforme à la réglementation imposée. Mais nous n'avons pas eu accès à cette étude. Nous avons rappelé la préfecture. Elle a demandé à Fleury-Michon un complément d'information. En attendant, l'arrêté qui interdit le passage des camions la nuit tient toujours.
Bon, voilà, on continuera évidemment de prendre des nouvelles. RMC s'engage pour vous, vous continuez de nous écrire. L'adresse mail est toujours là, rmcpourvous@rmc.fr. Dès lundi, Apolline Matin, ce sera avec Apolline de Malherbe qui est évidemment de retour. C'est la rentrée. Nouvel horaire pour RMC s'engage pour vous, ce sera à 7h10 avec Amélie Rosic. De nouvelles histoires dès lundi. Johanna Chabas, vous restez évidemment dans l'équipe pour continuer de suivre tous ces dossiers. Le journal de 7h dans un instant.
RMC, 6h-9h. Apolline Matin.